Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant ciné avec Maison de retraite 2. Et bonjour Léo.
Bonjour Vanessa.
Et coucou Lucas.
Coucou Vanessa.
Toujours en déplacement ?
Eh oui, toujours en déplacement, on est toujours là au rendez-vous.
Mais oui, bien sûr. On va parler de Maison de retraite 2, où on a eu la chance de le voir en avant-première au CGR Blagnac et de rencontrer l'acteur et scénariste Kev Adams.
Exactement.
Alors, rappelle-nous un peu cette rencontre à laquelle tu as participé. Et d'ailleurs, il s'est passé quelque chose d'assez fou entre vous. Mais d'abord, parlons du film avec le synopsis.
Quand le foyer Lino Vartan, qui accueille jeunes orphelins et seniors, doit fermer pour raisons sanitaires, Milan n'a pas d'autre choix que de répondre à l'invitation d'une maison de retraite dans le sud qui les accueille pour l'été. Tous embarquent dans le bus d'Alban. Enfants et anciens découvrent alors le bel Azur Club, une villa idyllique au bord de la mer. Le rêve. Une aubaine pour ces gamins orphelins qui n'ont jamais eu de vacances. Mais le paradis tourne à l'enfer, car anciens et nouveaux pensionnaires du troisième étage se détestent. La guerre des seniors est déclarée.
Ouais, c'est clair, c'est la guerre des seniors. Il y a de tout, hein, pour faire la guerre entre eux. Tu t'en souviens ?
Ah oui, ça j'en souviens. C'est vrai que quand on les voit arriver dans cette maison de retraite et qu'ils vont devoir cohabiter, on se dit, ah là là, mais quelle crasse ils vont encore imaginer ou qu'est-ce qu'ils vont encore mettre en place comme stratagème. Et c'est vrai que c'était assez sympathique à voir.
Ah, puis on a des grands acteurs, hein, quand même, qui sont Jean Reno, qui joue le rôle de Lorenzo, Daniel Prévost, qui joue le rôle d'Alfred, Liliane Rovert, qui joue le rôle de Sylvette, Firmin Richard, qui joue le rôle de Fleurette, Michel Jonas, qui joue le rôle d'Albert, Enrico Macias, qui joue le rôle de Rico, et Amanda Lear, qui joue le rôle de Barbie. Et bien sûr, il faut pas l'oublier, Chantal Latsou, qui joue le rôle de la colonelle. Et ça frite entre les seniors.
C'est ça, c'est ça. C'est en fait des seniors d'une maison de retraite qui vont devoir cohabiter avec ceux d'une autre maison de retraite. Et à partir de là, j'ai envie de dire un peu, tous les coups sont permis, mais ça va finir un peu par se calmer. Enfin, il va y avoir des hauts, des bas. On mettra à découvrir ça, en tout cas, sur le film.
Et on retrouve avec plaisir Kev Adams et Jarry. Ah bah oui, il est là, Jarry.
Et oui, Jarry, c'est son apparition dans le film et qui a un rôle qui est très comique tout au long du film. Et Kev Adams, du coup, un peu en personnage principal qui va être là pour, dans cette première maison de retraite, comme c'était un peu le cas dans Maison de retraite 1, accompagner son groupe de personnes âgées dans cette maison de retraite, dans la transition vers la nouvelle, et où il va vivre plusieurs histoires, que ce soit avec les personnes âgées pour les accompagner, essayer de s'entendre avec les personnes âgées de l'autre maison de retraite, mais également une personne qui va rencontrer sur place.
Ah oui, une personne qui est jouée par Luna Espinosa, mais ça, il va nous en parler, je crois, dans les questions.
Exactement. Donc tout d'abord, on lui avait posé une question par rapport à la tournée des avant-premières, parce qu'il fait quand même un sacré marathon entre 4 et 5 dates par jour, presque tous les jours. Donc on lui a demandé comment ça se passait. Voici ce qu'il nous a répondu.
La tournée se passe super bien. Je suis hyper content de l'accueil que les gens réservent au film. Je suis hyper étonné aussi de voir qu'il y a 2, 3, peut-être 4 fois plus de monde qui attend ce film par rapport au premier en fait. J'ai l'habitude de venir en avant-première présenter tous mes films partout parce que j'adore faire ça. J'ai l'habitude de venir en spectacle aussi, mais c'est vrai que là c'est franchement la première fois que ça m'arrive qu'on double, on triple ou on quadruple des salles dans certains endroits. Je pense évidemment grâce à la notoriété du 1, donc c'est super, c'est gratifiant, ça fait plaisir. Et puis, je pense que c'est la plus grosse tournée aussi que je fais depuis peut-être jamais, quoi, depuis toute ma vie. Parce que je crois que la plus grosse avant, c'était Aladdin. On avait fait quelque chose comme 140 ou 150 cinémas. Et là, on est proche des 200. Donc, je savais même pas qu'on pouvait faire autant de cinéma, quoi. Mais c'est un bonheur. C'est un bonheur. Les gens sont heureux. Ils viennent en famille.
Dans ce film, on voit qu'il y a plusieurs générations. Donc, on a les jeunes qui ont autour de 10-15 ans. les adultes qui sont vers la trentaine et les personnes un peu plus âgées, donc dans la maison de retraite, qui ont plus de 70 ans, voire même jusqu'à 93 ans pour les plus anciens. Et donc, on lui a demandé si le but de ce film, c'était de montrer le lien entre ces générations et comment il s'y était pris. Voici ce qu'il nous a répondu.
C'est exactement l'idée, c'était de créer, encore une fois, du lien intergénérationnel qui, malheureusement, dans notre société, existe de moins en moins. Et je m'en rends compte avec mes proches à moi. Moi, j'ai un petit frère qui a 17 ans, j'ai une grand-mère qui a 82. Je vois bien qu'ils ont moins de points de connexion que je pouvais avoir moi avec mes grands-parents il y a encore 15 ans. Il y a encore 15 ans, j'avais l'âge de mon petit frère. Ce que je veux dire, c'est que on grandissait avant ensemble, on écoutait la radio avant en famille. Moi, j'ai des souvenirs très précis de t'es dans la voiture, c'est pas toi qui décides ce que tu vas écouter à la radio et t'as pas d'écouteur. Donc tu vas écouter ce que tout le monde écoute. Donc tu apprends à connaître Charles Aznavour, t'apprends à connaître Charles Trenet, t'apprends à connaître Céline Dion. Et donc d'un coup, t'as des points de connexion culturels. Quand tu rencontres ta grand-mère, tu dis c'est marrant, on a écouté Charles Trenet, et puis elle te raconte 17 anecdotes sur Charles Trenet. Donc ça ouvre des discussions, ça que je veux vous dire. Aujourd'hui, ton petit frère, il a les écouteurs, peu importe ce que tes parents ou tes grands-parents ils écoutent dans la voiture, ils peuvent écouter Énergie ou Chérie FM. Lui, il est avec ses écouteurs, il écoute sa musique à lui. Il y a effectivement un enfermement culturel dans cette nouvelle génération. C'est-à-dire que j'ai mes vidéos sur YouTube, j'ai ma musique sur mon téléphone, j'ai mon espace culturel que je n'ai besoin de partager avec personne, qui correspond à ma génération. Et les seules personnes avec qui je vais le partager d'ailleurs, c'est en général ma génération sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est assez flippant en fait, parce que la culture c'est quand même fait pour se partager, pour être partagé, et particulièrement le cinéma.
On lui a demandé comment il avait fait pour trouver ce lieu de tournage, ce cadre idyllique qu'il a eu pendant toute la durée du film. Et l'anecdote est un petit peu longue, mais assez intéressante de voir comment il a réussi à le trouver. On vous la partage maintenant.
Ouais, effectivement, je ne sais pas comment vous le savez ou comment vous allez me poser une question si juste, mais en fait, c'est une maison dans laquelle j'ai été reçu l'an dernier pour un spectacle. Ça appartient à des promoteurs immobiliers. Qui d'ailleurs loue souvent la maison pour des tournages. On n'est pas le premier tournage à y avoir été. Ils ont tourné Bridgerton pour Netflix. Ils ont tourné Divorce Club, le film de Michael Youn là-bas aussi. Et moi, on me dit, il paraît que tu cherches des endroits atypiques pour faire des spectacles. C'est vrai que plus j'évolue, plus je m'ennuie des salles de spectacle. C'est terrible, mais c'est comme ça. Quand on démarre très très jeune, j'ai commencé à faire toutes les salles de spectacle. La première fois que j'ai joué au casino à Toulouse, je devais avoir 17 ou 18 ans, donc forcément, je cherche des challenges. On me dit, il y a une baraque là-bas, il n'y a pas de scène, il n'y a rien, mais on peut peut-être monter une structure et asseoir, 1500 personnes. Et donc, je dis, allez, je prends le challenge, on y va. Donc, je fais un spectacle l'été dernier, totalement à l'arrache, franchement, ça s'est prévu 2 semaines avant. Et je dis aux gens de Toulon sur les réseaux sociaux, on met des tickets à 30 euros, il y a 1500 places, venez me voir, je suis en spectacle jeudi prochain là-bas. Les gens viennent et je m'éclate à jouer dans cet endroit qui est, il faut le dire, franchement, extraordinaire. Donc, on installe des chaises pliantes, on met 1500 chaises pliantes. À gauche, tu as la mer à perte de vue. On fait le spectacle tôt, donc tu as le coucher de soleil pendant le spectacle. On monte une structure scénique ultra simple avec un spot, un micro. Et je joue 1h20 de spectacle là-bas. Donc, je me fais aussi plutôt pote avec les responsables et propriétaires de cette maison, qui me disent, écoute, on a adoré le spectacle, c'était trop cool, puis c'est la première fois qu'on a un spectacle ici et tout. Moi, à ce moment-là, j'étais dans une année un peu compliquée l'année dernière, je venais de signer un spectacle pour Netflix et j'en avais promis un autre à TF1. Et les deux m'avaient dit, il n'y a pas de problème, tu peux faire les deux dans la même année, mais par contre, il ne faut pas une seule blague en commun dans les deux programmes qu'on va capter pour la télévision. Du coup, moi, je suis constamment en train de jouer et d'écrire. C'est-à-dire que je joue et en même temps, je fais mes tri. Tu sais, je dis cette blague-là, elle va aller dans le Netflix, celle-là, elle va aller dans le TF1. Ça correspond plus à ça, etc. Donc, je leur dis, j'ai constamment besoin d'endroits pour écrire, en fait. Et les mecs me disent, reviens en janvier. Wow. On te file la baraque, si c'est pas loué, évidemment, puisqu'il y a des Émiratis, des milliardaires qui louent cet endroit constamment. Et viens avec tes équipes, vous posez dans les différentes maisons, puisque c'est un immense terrain avec plusieurs maisons. Et puis vous écrivez. Et donc on est reparti là-bas au mois de janvier, donc 6 mois après l'été où j'ai fait le spectacle. Et on est resté 2 semaines et demie là-bas à écrire quasiment tout le spectacle dont j'ai fait la tournée Zénith cette année. Et qui est passé sur TF1 cette année. Et donc en restant là-bas, forcément, quand tu as besoin un peu de souffler de l'écriture du stand-up, tu penses à tes autres projets. Et moi j'étais à fond sur Maison de Retraite 2, on n'arrêtait pas de faire des allers-retours. Donc évidemment, quand on s'est dit qu'il faudrait un endroit un peu idyllique dans le sud de la France qui évoque le soleil, où on voit la mer, où on a des beaux arrière-plans, des beaux fonds de plans, etc. J'ai immédiatement dit à Claude Zidi Junior, le réalisateur, il faut que tu descendes là-bas. Il faut que tu descendes là-bas. Je vais les appeler, je les connais bien. Fais-moi confiance, quoi. Et donc, ils sont descendus et il est revenu au bout de 3 jours de scouting, de repérage. Et il m'a dit, c'est exactement l'endroit qu'il nous faut, quoi.
Et enfin, on se posait une question, vraiment, parce que quand on le voit sur l'affiche, on se demande comment c'est possible. Comment a-t-il fait pour convaincre Jean Reno de tourner dans le film Maison de retraite 2, vu qu'il n'était pas dans le premier? Et voici comment s'est passée la rencontre.
Il vit aux États-Unis, à New York, j'ai rencontré à Paris, il n'était pas vraiment pour, puis il a lu le scénario, puis il m'a dit non, puis il m'a redit non, puis il m'a redit oui, puis après il m'a redit non. Puis son agent m'a dit, tu devrais aller aux États-Unis, ça va le convaincre que tu fasses cet effort. Donc moi j'étais en tournée en même moment, donc je prends un avion à Lyon le mardi, je jouais à Reims le samedi, donc je pars mercredi, jeudi à New York, je fracasse avec la tête comme ça, à lui lire le script. D'ailleurs je crois que j'ai des vidéos que je peux vous montrer de moi en face de Jean Reno en train de lui lire. Et lui qui a envie, mais je sentais qu'il avait très envie de bosser avec moi. Il me l'a dit d'ailleurs, il m'a dit, j'ai vu ce film-là, ça je l'ai vu sur Netflix. Mais, maison de retraite, ça faisait chier un peu quand même, quoi. c'est quelqu'un qui te fait encore des films d'action, donc forcément. Et puis je pense qu'il s'est vraiment laissé convaincre quand il a vu le premier film. Il a eu des mots incroyables quand il a vu le premier film. Vraiment, il m'a beaucoup touché, quoi. Il m'a dit, c'est un film merveilleux, plein de bienveillance, qui porte des belles valeurs, qui va réunir la famille. C'est important tout ça, c'est des valeurs que je défends. Et il nous a suivis comme ça. Et c'est vrai que de l'avoir, d'un coup, ça tamponnait, ça crédibilisait aussi tout ce projet. Je ne sais pas si le projet aurait été aussi beau, aussi bien sans Jean Reno, franchement.
On a parlé en préambule de Luna Espinosa, et voici comment s'est montée cette histoire d'amour entre les deux personnages, mais pas que entre ces deux personnages, également, il y avait des histoires d'amour dans un petit peu toutes les générations.
Elle était l'héroïne du film de Franck Dubosc, Combat la vie, l'année dernière. Ça s'est super bien passé, c'est une actrice brillante, et puis elle a tout de suite compris le rôle. Et puis vous savez, c'est pas facile d'exister dans un casting, dans un ensemble casting comme ça. Quand vous avez 10, 12 acteurs principaux qui ont tous leur mot à dire, qui ont tous quelque chose à faire, parce qu'on a parlé de tous nos anciens, mais on n'a pas parlé de Jari, de Brahim, qui font aussi un job génial dans le film. C'était pas simple pour elle d'exister. Et je trouve qu'elle l'a fait très justement, avec beaucoup de charme, beaucoup d'élégance, sans jamais tomber dans ce truc malheureusement qui existe dans cette jeune génération, un peu vulgaire. On a aujourd'hui des jeunes actrices, parfois dans certains films, tu te dis, non mais les gars, il n'y avait pas du tout besoin de l'habiller comme ça pour nous faire comprendre que c'est une jeune. Hein. On a compris, tout va bien, il n'y a pas besoin d'être un peu outrancier. C'est des choses qui me gênent un peu parfois d'ailleurs. Elle est toujours très élégante. Il y a d'ailleurs une forme d'élégance à l'ancienne chez elle, chez une fille qui est très jeune et clairement de la nouvelle génération. Donc, je trouve qu'elle fait le job à fond, je trouve qu'elle est super. Et effectivement, Milan trouve son alter ego dans ce film-là. On me l'avait beaucoup réclamé après le premier. Oui. On m'avait beaucoup dit, merci beaucoup. On m'avait beaucoup dit, mais pourquoi il n'y a pas d'histoire d'amour dans le film? Ce à quoi je répondais, c'est pas vrai, il y a plein d'histoires d'amour. Il y a l'histoire d'amour entre Alfred et Claudine. Oui. Et on m'avait dit, ouais, mais c'est quand même cool aussi qu'il y ait une histoire d'amour chez les jeunes. Du coup, ce que je me suis dit, c'est sur le 2, on va mettre des histoires d'amour partout pour bien expliquer que l'amour, ça existe à n'importe quel âge. Donc, vous avez l'histoire d'amour entre Firmin et Enrico Macias, vous avez l'histoire d'amour entre moi et Luna Espinosa, vous avez l'histoire d'amour entre la petite Juline et le petit Bastien, de manière à ce qu'on se dise, l'amour peut nous piquer à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de la vie. Et j'aime bien ce message-là aussi qui est un peu sous-jacent dans le film. Donc, je suis très content de ce qu'elle a fait.
Pour l'avant-première au CGR Blagnac, il y a une personne qui a posé une très belle question sur le fait, un moment d'émotion que pourrait citer Kev Adams du film. Et voilà ce qu'il a répondu.
Si je devais choisir un moment d'émotion, pour pas être que dans la comédie, parce que j'aime beaucoup les moments d'émotion dans le film aussi, ce serait le moment de la chanson de Charles Aznavour quand ils sont dans le bus. Tout le monde se met à chanter, je trouve que c'est particulièrement représentatif. C'est une chanson que j'écoutais très souvent plus jeune, dans la voiture, avec mes parents, avec mes grands-parents. Et je trouve ça assez majestueux et magique de voir des acteurs dont la moyenne d'âge est 85 ans, de chanter « Hier encore, j'avais 20 ans », ça représente ce qu'on essaye de dire dans ce film. Parce qu'il faut préciser une chose, c'est que la performance de tous ces acteurs merveilleux est incroyable, mais elle l'est encore plus parce que ce n'est pas des gens qui jouent des gens âgés, c'est vraiment des gens âgés, tu vois. C'est vrai, ça fait une différence en fait. Liliane Rovert, que vous voyez dans le film, qui est tout en haut à droite,
c'est la plus âgée du casting, elle a 92 ans. Donc je trouve ça complètement fou d'avoir ces performances-là, de ces acteurs-là, à des âges aussi avancés. Enrico, il a 85 ans, Daniel Prévost, 83, Amanda Lear, 80. Ce que je veux dire, c'est que c'est fou d'avoir un casting aussi âgé et avec autant de patates, de pêche, qui jouent les émotions et le rire de la même manière. Enfin voilà, moi, c'est pour moi un honneur de partager l'affiche avec eux. C'est pour moi un honneur aussi, pour certains, de les présenter à la nouvelle génération. J'ai la chance en ce moment de présenter le film un peu partout. Et il y a des jeunes qui me disent « Je ne connais pas Jean Reno, je ne sais pas qui est Michel Jonas, je ne sais pas c'est qui Daniel Prévost. » Donc moi, je leur parle de Léon, des visiteurs, du dîner de cons. Et t'imagines, enfin, je trouve que c'est un passage de flambeau dans ce film que je trouve exceptionnel. Tu vois, au-delà de ce qu'on raconte, le film, on peut en débattre. Il y a des choses qui sont évidemment discutables, des choses qui sont sublimées, mais le message derrière, le côté « on remet l'église au centre du village, on remet les stars de toute une génération à leur place et on les présente aussi à une nouvelle génération », pour moi, c'est le plus beau cadeau de ce film. Voilà.
Alors, une question de la retraitée, Jean-Marie.
Bon, une sacrée rencontre encore avec Kev Adams, hein, toujours un plaisir. Alors, il était, on le sentait, un peu fatigué, mais toujours prêt à répondre et surtout passionné par ce film, passionné par son équipe et passionné par le tournage qu'il a vécu. Et on ressent tout ça, que ce soit avec nous en conférence de presse et avec le public. On est bien d'accord, Lucas ?
Ah, totalement. Et en même temps, tu disais, faire 5 séances par jour à peu près d'avant-première, enfin, c'est un marathon que j'avais jamais vu. Quand j'ai vu ça, j'étais impressionné. Et oui, à chaque fois, il a toujours la même énergie de partage, d'échange, de discussion. Et il se donne toujours à fond et il est très gentil, très cool. Donc vraiment, c'était un super moment, que ce soit pendant l'avant-première ou après, quand on a pu échanger et lui poser des questions.
Alors, si je me trompe pas, le film sort le 14 février.
Exactement.
Donc, le mercredi 14 février, vous pourrez découvrir au cinéma, au Cégère Blagnac et d'autres cinémas à Toulouse, Maison de retraite 2. Moi, je dis, il y a un beau petit casting, on rigole bien, on passe un bon moment, aussi bien avec toutes les générations. Donc, n'hésitez pas, courez voir le film.
Exactement.
Cher Monsieur Milan, suite à vos exploits de réunir orphelins et troisième âge, j'aimerais vous inviter pour l'été, vous, ainsi que le personnel et tous vos pensionnaires.
J'ai une grande annonce à vous faire.
Ils vont enfin me couper les cheveux?
Non, on part tous en vacances à la mer.
Bienvenue au Bel Azur Club. Laissez-moi vous présenter quelques-uns de nos pensionnaires. Voici Lorenzo.
Enchanté. Bonjour.
Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont ravies de vous rencontrer.
Ok, waouh, pas sur un wad.
On en fait quoi des nouveaux ?
Voir débarquer des vieux, ça me fout un pied dans la tombe, moi.
Génial, c'est la guerre !
Oh putain, ça recommence.
Ils vont s'entretuer, les yeux, ça va être trop bien !
Hop, quartier !
Stop ! Non mais oh ! Ça va pas bien ou quoi, là ?
On va dire à Milan de nous ramener dans notre foyer. Là-bas, c'est chez nous.
La vérité, c'est qu'on peut pas rentrer au foyer.
Vous avez 15 jours. Passez ce délai, je serai obligé de replacer vos pensionnaires dans un orphelinat et une maison de retraite digne de ce nom.
Si les anciens sont séparés des enfants, c'est ça qui les tuera. Ensemble, ils sont une famille.
C'est beau, la manière dont tu t'occupes des anciens, Milan. Le bonheur, on fait le tour du monde pour le trouver, et c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
Christophe May.
Et c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
Allez, on se libère.
Tiens, prends ça, ça va détendre.
Et dans le casting, on compte une grande méchante, style un peu Cruella d'enfer, dans ce rôle très spécial, Anne-Marie Vin. C'était un pur bonheur de la voir dans ce film. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas ?
Bah, c'est un personnage qu'on, entre guillemets, adore détester, quoi. Quand on voit les bâtons dans les roues qu'elle essaye de mettre, ce qu'elle essaye de faire et de mettre en place, on se dit, ok, oui, on l'identifie clairement comme le personnage méchant de cette histoire, et on se dit, pitié qu'elle arrive pas à ses fins et qu'elle laisse enfin ses pensionnaires tranquilles, parce que son but va être d'essayer de les récupérer parce qu'elle veut essayer d'avoir le monopole là-dessus. Mais ça, après, on vous le laisse découvrir dans le film.
Et oui, parce qu'il y a des surprises, il y a des retournements de situation, donc vous allez passer un excellent moment.
Et ça, c'est sûr.
Et puis, on a aussi Brahim Boulel qui joue, eh bien, qui est avec Jari et Kev Adams, et qui est un peu particulier, qui a des petits soucis avec la langue française.
Ah, ça c'est sûr, on va dire que les dictons et les jeux de mots, c'est pas forcément son fort, et on va dire que la langue a sûrement fourché à chaque fois qu'il a essayé d'en faire un, donc ça rajoute un aspect comique au film, très sympa, et de toute façon, il fonctionne très très bien en duo avec Jari, ça fait vraiment un duo qui est très comique et qu'on attend de voir évoluer tout au long du film.
Et les enfants que vous allez adorer découvrir.
Exactement.
Et on n'est pas les seuls à le dire, hein. Je crois qu'il y a des avis de public unanimes.
Ah oui, on peut vous les partager tout de suite, vous allez voir.
Du coup, vous avez pensé quoi du film ?
Mais en tant que retraité 68 ans, bravo, c'est bien.
Vous avez bien aimé ?
Ah oui, j'ai vu le premier et je viens de voir le deuxième et je lui ai posé la question s'il allait faire le troisième.
Ah d'accord. Et du coup, vous appelez comment ?
Jean-Marie Touvenin.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Marie pour votre avis.
Avec plaisir.
Du coup, t'as pensé quoi du film ?
Il était top, juste top.
Ouais.
J'ai vraiment aimé.
C'est quoi que t'as préféré dans le film ?
C'est le côté humour, les moments un peu où tu t'y attends pas et bam, ça sort. J'ai kiffé.
Ok, tu t'appelles comment ?
Moi, c'est Maxime.
Ah, merci beaucoup Maxime.
De rien.
Bah, du coup, juste, qu'est-ce que t'as pensé du film ?
Bah, c'était bien parce que on mélange les personnes âgées et les personnes pas trop âgées. Et c'était trop bien.
Super. T'as eu une scène préférée dans le film ?
Quand je sais plus comment elle s'appelle, mais ah oui, Chantal Latsou, elle tombe dans le fauteuil.
Ok, super. Et tu t'appelles comment du coup ?
Paloma.
Merci beaucoup Paloma. Du coup, oui, vous pouvez répondre à deux. Du coup, vous vous appelez comment ?
Moi, Josette. Et moi, Véronique.
Bonjour Josette et Véronique. Du coup, vous avez pensé quoi du film ?
Il était génial. Il est très bien traité. C'est très sensible. Je lui donne 20 sur 20. Et en plus, les acteurs, avoir récupéré des acteurs comme ça, les faire jouer avec leur âge, mais, et puis c'était tellement réel, c'était tellement vrai, on ne sait plus quoi dire.
Non, c'est vrai, c'était un très, très beau film, il est vraiment à conseiller à aller voir, parce que même dans les écoles et tout, moi
surtout
je trouve que...
Surtout dans les écoles.
Pour les jeunes,
voilà,
pour les jeunes,
ouais.
Parce que c'est vrai que quand on amène ces personnes âgées dans les maisons de retraite, qui n'ont pas d'activité, qui n'ont rien, et bien les pauvres, on croit qu'elles sont là, pourquoi, attendre quoi, hein, la fin. Alors là, c'était vraiment génial et je conseille vraiment d'aller voir ce film.
Super, merci beaucoup Josette et Véronique.
C'était Chaud Devant Ciné avec Maison de Retraite 2. Merci beaucoup, Lucas, d'avoir été avec nous.
Avec plaisir, et foncez voir le film.
Eh bien oui, mercredi 14 février, n'hésitez pas à découvrir Maison de Retraite 2. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always teased to